Vous êtes sur RTL.
À demain.
RTL Midi.
Le 12-30, Vincent Parisot.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans RTL Midi et très heureux de vous retrouver. Sachez-le, Christelle Rebière sera de retour demain. Alors en ce mercredi 7 juillet, eh bien on regarde le Ventoux des deux côtés. Oui, la 11e étape du Tour aujourd'hui s'annonce mythique avec une double ascension du géant de Provence. 199 km entre Sorgues et Malocène et c'est parti d'ailleurs depuis quelques minutes, Nicolas Jean-Géraud.
Étape qui sera spectaculaire. Oui, bonjour Vincent, bonjour à tous. Le Tour a voulu casser les schémas. Deux ascensions, deux descentes aussi du Ventoux. C'est parti depuis 13 km. Deux attaquants pour former l'échappée. L'italien Ballerini, le belge Rickert. Une avance de 10-15 secondes sur un peloton qui roule très très vite.
À tout à l'heure Nicolas. Au programme d'RTL Midi également, les plaidoiries de la défense au procès de Roadec. Hier, l'avocat général a mandé la perpétuité avec peine de sûreté de 22 ans contre Hubert Caouissin pour les meurtres des quatre membres de la famille Roadec. Au cœur de la stratégie de défense des avocats, le délire paranoïaque de l'accusé. Ça pourrait signifier que son discernement au moment des crimes était altéré. On sera aux assises de Loire-Atlantique dans un instant. Et puis, ce matin a été rendue une décision de justice très attendue, celle du procès Mila. 11 des 13 accusés jugés pour avoir participé au cyberharcèlement de cette adolescente ont été condamnés à des peines de 4 à 6 mois de prison avec sursis et ça devrait faire date. Pas encore les vacances pour le gouvernement. Mais peut-être aujourd'hui le dernier conseil de certains ministres. On s'interroge sur un éventuel remaniement, mais aussi sur une prise de parole d'Emmanuel Macron. À l'étranger, en Haïti, l'assassinat du président Jovenel Moïse. Il a été tué chez lui cette nuit par des hommes armés. Le Premier ministre, qui a d'ailleurs tout juste été nommé, appelle au calme. Question: à quoi joue l'Iran? Les Européens et les Américains s'inquiètent face à la décision de Téhéran de s'affranchir encore un peu plus de ses engagements sur le nucléaire. Le départ de Donald Trump de la Maison-Blanche n'a donc pas vraiment changé la donne. Dans RTL Midi, on ira sur la Côte d'Azur pour constater que les touristes étrangers ne sont pas là et pourtant les stations balnéaires réalisent plutôt un bon début de saison. Et puis on ira aussi à Lille où le nouvel entraîneur du LOSC, le breton Jocelyn Gourvennec, n'est pas vraiment le bienvenu chez les ch'tis. Alors la météo, Peggy Broche, vous nous annoncez encore une journée pluvieuse et orageuse.
Eh oui, malheureusement Vincent, et ça concerne les trois quarts du pays, des Pyrénées à la région centre en remontant vers la Belgique avec des orages plus marqués dans le sud-ouest. Des averses orageuses également entre le Jura et les Alpes, mais aussi sur la Bretagne cet après-midi. Ailleurs, un temps plus sec, plus lumineux, entre l'extrême nord et le littoral aquitain, également sur le nord-est, et entre la vallée du Rhône et le pourtour méditerranéen. Et puis il fait très beau en Corse. Les températures, elles sont en hausse sur le nord-est, mais fraîches ailleurs, sauf près de la Méditerranée, bien sûr. De 17 à Brest, à 30 à Marseille, seulement 20 degrés à Bordeaux, 23 à Paris et 25 à Strasbourg.
Et puis la question du jour sur RTL, sur RTL.fr, évidemment. On parle du Tour de France, la domination de Pogacar, sème-t-elle le doute ? En toile de fond, évidemment, de cette question. Il y a le dopage. En tout cas, vous dites oui à 53% et non à 27%. On attend vos appels, évidemment, au 3210. Bonjour, Pascal Pro.
Bonjour, et c'est vrai qu'on a perdu un poil de notre naïveté sur le Tour de France depuis tant d'années. On voit Pogacar et on ne peut s'empêcher, pardonnez-moi de le dire comme ça, à Armstrong, et c'est horrible, bien sûr, parce que il mérite sans doute pas qu'on pense à Armstrong toujours et tout le temps lorsqu'on le voit. Des peines de 4 à 6 mois de prison avec sursis prononcées dans l'affaire de cyberharcèlement, vous pourrez réagir à ce sujet. La primaire de la droite, c'est un sujet. Disneyland qui a présenté ses excuses parce qu'une jeune femme était en train d'allaiter, des officiers de sécurité lui ont demandé de ne pas allaiter un bébé dans les couloirs ou dans les allées de Disneyland. Le résultat du bac, également un sujet. Et puis l'Italie. L'Italie, c'est intéressant parce que je voudrais qu'on parle de l'hymne. L'hymne italien,
oh là là, la manière... Vous les avez vus chanter hier soir.
Exactement. Et je trouve que c'est un miroir sur la manière dont nous célébrons notre hymne. Donc on pourra parler de l'Italie et rendre hommage aux Italiens. À tout à l'heure.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Après 12 jours d'audience au procès d'Hubert Caouissin, jugé pour le cas de meurtre de la famille Troadec en février 2017. Parole donc à la défense aujourd'hui, c'est l'heure des plaidoiries. Hier, l'avocate générale a requis la perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans pour le principal accusé et 3 ans ferme pour son ex-compagne Lydie. Le parquet a insisté sur la dangerosité du Bercaoussin et puis surtout a demandé aux jurés de ne pas tenir compte du délire paranoïaque qui a été diagnostiqué par les experts, ce qui pourrait signifier altération du discernement et donc atténuation de la peine. C'est évidemment tout l'enjeu des plaidoiries de la défense, Anne Le Hénaff, vous êtes aux Assises de Loire-Atlantique à Nantes.
Oui, les avocats demandent aux jurés, 5 hommes et une femme, de ne pas se laisser envahir, submerger par l'horreur des faits. Ces 4 corps découpés en tout petits morceaux et éparpillés par ce que Maître Larvor a qualifié de dossier noir d'une partie de ses nuits blanches. L'avocat s'est attaché à démontrer que Hubert Caouissin n'avait pas prémédité son geste, que c'est somme toute un homme ordinaire qui s'est laissé emporter dans un délire paranoïaque qui n'est plus dangereux aujourd'hui. Ne le poussez pas à la désespérance avec une peine à perpétuité, a-t-il conclu. Le deuxième avocat de l'accusé, Maître Fillion, est en ce moment à la barre et il va certainement tenter de convaincre la Cour de tenir compte de cette altération du discernement qui a été réaffirmée à la barre par les experts psychiatres. Ça permettrait d'abaisser la peine maximale de la perpétuité à 30 ans de prison. Plus tôt ce matin, les 2 avocats de Lydie Troadec, qui comparaient libre et qui risquent 3 ans de prison, ont eux insisté. Elle était sous l'emprise d'un délire à 2. La prison n'est pas la solution. Vous allez décider où elle dormira ce soir et pendant combien de temps. Demain matin, sa première pensée sera pour son fils. Ce sera son 13e anniversaire.
Anne Le Hénaff, en direct de la Cour d'assises de Loire-Atlantique à Nantes pour RTL. Et puis le tribunal correctionnel de Paris, lui, a rendu son jugement tout à l'heure dans l'affaire Mila. 13 personnes étaient jugées pour cyberharcèlement après la publication par cette adolescente d'une vidéo polémique sur l'islam. 11 des 13 accusés écopent de peine de 4 à 6 mois de prison avec sursis. C'est une décision qui devrait faire date en forme de message, Cindy Hubert. Le message, c'est Internet n'est pas une zone de non-droit.
Oui, le président veut que sa décision marque les esprits. Alors, il fait dans la pédagogie face aux prévenus aux airs de grands ados. Les réseaux sociaux, c'est comme la rue, c'est un espace public. Si vous croisez quelqu'un dont vous n'aimez pas le physique ou ses propos, vous n'allez pas l'insulter, vous n'allez pas l'agresser. Bon, eh bien, c'est pareil sur Internet. Les menaces de mort ont été retenues dans un seul cas. Une jeune femme qui avait écrit directement par mail à Mila. Je vous passe les insultes, mais il y a cette phrase sans équivoque. Je te souhaite de mourir de la façon la plus atroce qui puisse exister. Et si jamais ça tarde, je m'en chargerai moi-même. Mila est sortie de l'audience, le poing levé, entourée de ses gardes du corps.
Ce que je veux, c'est que tous ensemble, on n'arrête jamais de baisser les bras, qu'on continue de se battre. Ce que je veux, c'est que les personnes qui seraient considérées comme des pestiférés, à qui on interdirait les réseaux sociaux, ce soient ceux qui harcèlent, ceux qui incitent au suicide. Et je veux plus jamais qu'on fasse culpabiliser les victimes.
À l'audience, un seul prévenu a exprimé un repentir sincère, estime le tribunal. Son casier restera donc vierge. Tous les autres auront désormais une peine associée à leur nom. Une décision lourde de conséquences pour des jeunes qui entrent tout juste dans le monde professionnel.
Cindy Hubert. L'actualité de ce mercredi, c'est aussi la progression du variant Delta en France. Un variant qui est désormais majoritaire dans 3 régions. Provence, Alpes-Côte d'Azur, Île-de-France et Nouvelle-Aquitaine. Face à cette situation et face à la crainte d'un nouveau confinement éventuel avec fermeture des magasins, eh bien les commerçants appellent solennellement les Français à se faire vacciner. Leurs associations professionnelles ou confédérations signent un communiqué commun pour demander à leurs clients de faire preuve de responsabilité individuelle et collective. Le commerce, c'est la vie. Pour la préserver, il faut se faire vacciner. Voilà ce que dit Francis Palombi, le président de la Confédération de France. En tout cas, le ministère de la Santé hier s'est réjoui d'un petit rebond de la vaccination, en tout cas pour les prises de rendez-vous de la première injection. Et pour inciter encore plus fortement celles et ceux qui sont toujours réticents, eh bien les médecins vont maintenant pouvoir agir. L'assurance maladie va pouvoir leur transmettre les noms de leurs patients non vaccinés. La CNIL a donné son feu vert, même si c'est de justesse, Benjamin Boucriche.
Oui, le gendarme des données personnelles est très frileux sur cette question. Dans son avis rendu public ce matin, il se dit en principe défavorable à une telle pratique. Pour la CNIL, une liste de patients avec plusieurs informations soumises au secret médical, comme les maladies de chacun d'entre eux, présente un risque de mésusage. Mais la situation sanitaire exceptionnelle peut la justifier, tempère l'agence. Du côté des médecins, la réaction est beaucoup plus favorable. Jean-Louis Bensoussan est généraliste près de Toulouse et secrétaire général du syndicat MG France.
quand j'aurai cette liste de personnes non vaccinées, eh bien, je vais la regarder, et puis je vais regarder ceux qui ont le plus de facteurs de risque, en commençant par ceux-là, en les appelant pour leur demander leur motivation au fait qu'ils ne soient toujours pas vaccinés, et à ce moment-là, j'organiserai cette vaccination pour eux.
Cette liste de personnes non vaccinées ne sera pas transmise automatiquement à tous les médecins. Pour la recevoir, les blouses blanches devront en faire la demande auprès de leur caisse d'assurance maladie. Jean-Louis Bensoussan promet qu'il le fera dès que possible, mais il devra patienter encore quelques jours avant la parution d'un décret au journal officiel.
Benjamin Bocriche, nous sommes mercredi, c'est le jour du Conseil des ministres, vous le savez, c'est pas encore le dernier avant les vacances, hein, il est programmé pour le 28 juillet. En revanche, c'est peut-être le dernier conseil de ce gouvernement pour certains ministres. On savait déjà avant les régionales que certains d'entre eux étaient menacés. William Galibert, vous êtes à l'Élysée, l'idée d'un prochain remaniement n'est pas à écarter, hein.
Oui, ça commence sérieusement à peser sur le moral des troupes. Éventuel remaniement ou pas, éventuelle réforme des retraites ou pas. La vérité, c'est que personne ne sait rien, expliquent en privé les ministres, qui se demandent parfois si le président lui-même sait exactement où il veut aller. C'est compliqué, dit poliment un membre du gouvernement pour parler de cette période. L'une de ses collègues moins diplomate l'avoue, c'est chiant. Et elle explique, il n'y a plus rien de collectif en ce moment dans l'équipe gouvernementale. On se sent très très seul, des ministres qui espèrent qu'une partie de cette purée de pois se dissipera lundi prochain 19h, puisque les parlementaires de la majorité seront reçus ici à l'Elysée par Emmanuel Macron.
William, justement, celui qui va trancher sur le remaniement, c'est Emmanuel Macron, c'est lui. Et là aussi, on s'interroge sur une éventuelle prise de parole du président.
Oui, mais là également, le brouillard reste assez tenace. Allocution solennelle, interview télévisée. On ne sait pas bien quelle sera la forme choisie pour s'adresser aux Français. Forme qui dépendra aussi de ce qu'Emmanuel Macron aura à dire ou pas. Le suspense, Vincent, prendra fin rapidement, puisque ce qui est certain, c'est que le chef de l'État doit s'exprimer avant le 14 juillet, c'est-à-dire avant mercredi prochain.
Merci William Galibert. Je vous le disais, les Européens et les Américains expriment leur inquiétude face à l'attitude de Téhéran sur le nucléaire, les Iraniens étant accusés de s'affranchir de leurs engagements pris en 2015. Christophe Decroix, on pensait pourtant qu'avec la fin de l'ère Donald Trump aux États-Unis, l'horizon s'était dégagé.
Ah oui, ça s'est éclairci du côté américain. Joe Biden s'est dit prêt à revenir dans l'accord sur le nucléaire. Des négociations étaient d'ailleurs en cours à Vienne, mais elles patinent. Et puis les sanctions imposées par Trump, quand il s'est retiré de l'accord en 2018, ne sont toujours pas levées. On se rend compte qu'au final, ces sanctions ont favorisé l'arrivée au pouvoir en Iran de conservateurs encore plus conservateurs. Résultat, les Iraniens s'affranchissent de leurs obligations. Ils ont commencé les opérations pour produire de l'uranium métal avec un taux d'enrichissement de 20%. Alors, c'est soi-disant pour la production de produits pharmaceutiques. En réalité, les Occidentaux pensent que l'Iran reprend le chemin pour se doter de l'arme atomique. L'inquiétude est d'autant plus grande que Téhéran a limité les vérifications menées normalement par les inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Le retour à l'accord de 2015 qui offrait à l'Iran un allègement des sanctions occidentales et onusiennes en échange de son engagement à ne jamais se doter de l'arme atomique semble s'éloigner.
Christophe Decroix, on marque une pause et dans un instant, le soupçon Pogacar.
RTL Midi.
Avec Vincent Parisot.
Le soupçon Pogacar, le large leader du Tour de France, le Slovène, donc a rendez-vous aujourd'hui avec une légende du Tour, le géant de Provence, le Mont Ventoux. Il va l'escalader deux fois, comme les autres coureurs évidemment. Mais c'est vrai que depuis le week-end dernier, il y a lui et les autres, ses principaux adversaires sont très loin. Je ne vous parle même pas d'Alaphilippe qui est à près de 49 minutes. Une telle domination, Pascal Praud, crée-t-elle chez vous le soupçon ?
Chez tout le monde. Et c'est ça qui est terrible avec ce sport du cyclisme, c'est qu'on ne peut plus regarder le cyclisme sans savoir, sans penser à ce qui s'est passé avant. Donc quand on voit Pogacar, on pense à Armstrong. Mais je vais peut-être vous choquer, Armstrong, ça reste, à mes yeux, en tout cas, un grand champion. Mmh. Et c'est pour ça que c'est un sujet très compliqué.
Un grand champion, même s'il a été un grand dopé.
Mais ce qu'il a fait, il l'a fait. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il l'a fait. J'ai envie de dire même dopé. Et j'ai bien conscience que ce que je dis peut choquer ceux qui nous écoutent. Mais ça reste, à mes yeux, un grand champion avec des performances exceptionnelles qu'il a faites. Effectivement, en dehors des règles de l'éthique. Alors, pour revenir à Pogacar, quand on le voit, effectivement, on se dit, est-ce que... On sait bien que le dopage est possible. On sait bien que les cyclistes ont parfois un coup d'avance sur les contrôles. On sait tout ça parce qu'on s'est fait avoir tellement de fois qu'on se dit, est-ce que ce garçon échappe au contrôle. Voilà, pour le dire clairement. Est-ce qu'il échappe au contrôle
et à partir du moment où il échappe, il n'y a pas de débat.
Et vous avez raison d'ailleurs, c'est pour ça que je trouve que moi-même ça m'ennuie de dire ce que je suis en train de dire là, parce que c'est un champion, il est présumé innocent, si j'ose dire.
Et alors, qu'en pense notre spécialiste cycliste Christian Olivier sur la route du Tour? Christian.
Bonjour messieurs.
Bonjour.
Alors, d'abord, je vous ai entendu mettre en avant deux informations totalement irréfutables, mais qui brouillent les pistes et qui prêtent à confusion. La domination de Pogacar et les 49 minutes de retard de Julien Alaphilippe. Sur ce point, il faut évacuer la comparaison. Elle n'est pas possible. Sportivement, Alaphilippe a réussi son tour. Première étape et maillot jaune. Il court maintenant pour son collègue Cavendish et pour les sprints. Peut-être qu'il fera un coup d'éclat encore et pourquoi pas ce soir, mais on peut pas, là, faire cette comparaison qui prête à confusion. Si on est encore dans le domaine sportif, il y a un autre argument que je ferai pas mien d'ailleurs, mais qui est utilisé par ceux qui ne voit aucun problème Pogacar, c'est la faiblesse cette année des adversaires. Situation provoquée, vous le savez, par les chutes, la météo, etc., etc. Très rapidement, mais il faut bien le reconnaître, des garçons comme Roglic, deuxième l'an passé, a abandonné. Van Aert, deuxième au général, pas au niveau. Carapaz, décevant. Geraint Thomas, vainqueur en 2018, touché par les chutes, etc., etc. Tout ça l'attrape. Alors, ceci posé, il n'en demeure pas moins que la performance de Pogacar dans les Alpes était ahurissante. Et Vincent, souvenez-vous, dimanche soir, dans le journal de 18h, au sommet du Grand Bornand, on en parlait déjà. Oui. On était étonné de la fréquence de pédalage, on était étonné de la facilité pour accélérer, les adversaires étaient absolument interloqués, on était étonné également de voir Pogacar sans équipier, à l'inverse de Lance Armstrong qui avait de fidèles équipiers, lui, eh bien rouler pour son compte personnel. Donc ça, ce sont des faits. Autre fait également, une partie du staff de l'équipe de Pogacar est managée par celle qui manageait à une époque, l'époque Saunier Duval, l'équipe Saunier Duval, époque de l'Italien Ricardo, qui avait été exclu pour dopage. Alors là aussi, ça prête à confusion, comme la Slovénie qui en 2016, 2017, 2018 a été un véritable nid à dopage et à trafic auprès de coureurs amateurs qui sont devenus aussi professionnels. Voilà, on a été cocufiés en 98 avec l'affaire Festina, idem avec Lance Armstrong dans les années 2000. Les contrôleurs contrôlent, les laboratoires d'analyse analysent, mais je vous le dis tout de suite, il n'y aura que les enquêteurs de police qui lèveront ou pas la présomption d'innocence de Pogacar. Mais uniquement pour les trafics et pas pour les méthodes de dopage.
Merci Christian Olivier, merci Pascal. Et vous, qu'en dites-vous? Vous dites à 53% que la domination de Pogacar aujourd'hui sème le doute. RTL.fr évidemment et 3210 pour en parler avec Pascal dans un instant. On parle football. Après la joie du titre de champion devant le PSG, eh bien le soufflet retombe un peu côté Lillois et les supporters ont appris la nomination de Jocelyn Gourvennec au poste d'entraîneur. Il remplace Galtier. Le Breton est arrivé ce matin, présenté officiellement, et pour lui comme pour le club, c'est le terrain qui dira la vérité, même si l'accueil des supporters, Frank Hanson, n'est pas vraiment à l'image de la chaleur des gens du Nord.
Et oui, aux côtés du président lillois, le nouveau coach des Dogs se dit heureux de relever ce challenge. Objectif, viser les premières places pour une qualification européenne. Jocelyn Gourvennec, absent des terrains depuis 2 ans, a été bien accueilli par ses joueurs et le staff, mais plusieurs supporters ne sont guère enthousiastes, alors que des noms plus prestigieux avaient circulé.
Tout le monde est vraiment mécontent. Ouais. On finit champion de France, on va jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Gourvennec. Aujourd'hui, j'ai peu d'espoir. Je ne critique pas le personnage en lui-même, mais il n'a pas fait grand-chose.
Je m'attendais vraiment à quelqu'un d'autre qui a plus d'expérience. On joue le ventre mou, alors.
On ne va pas tirer des grosses têtes à la maison. Hein.
Pour l'entraîneur Gourvennec, qui met en avant son expérience en Ligue 1, le plus important, c'est le travail et l'humilité des valeurs communes aux gens du Nord et aux Bretons. Pas question de polémiquer.
Quand on est entraîneur, on est toujours très exposé, et c'est comme ça, on est en démocratie, chacun a le droit de s'exprimer. Mais dans mon travail, je mets mon énergie sur des choses essentielles, et les choses essentielles, c'est d'assurer la transition entre la merveilleuse saison réalisée par le LOSC la saison dernière, et puis ce qui va se passer dans les semaines qui arrivent, et on va s'y atteler. On est là pour gagner, gagner, gagner.
Et pour le président du LOSC, qui ne compte pas vendre tous ses joueurs champions de France, c'est à la fin de la saison qu'on jugera le résultat.
Voilà, et elle n'est pas encore commencée cette saison. Merci Frank Hanson. Courte pause dans un instant. Christophe Paco, RTL chez vous.
RTL. Tour de France 2021. RTL chez vous. Christophe Paco.
Et on vous retrouve tout de suite, Christophe. Bonjour.
Bonjour à tous. RTL chez vous, sur la route de la course ce midi en direction du Giron de Provence, sous la chaleur et le chant des cigales. L'histoire du Ventoux, ses particularités, ses fantasmes, ses craintes qu'il engendre. RTL chez vous, en Provence. C'est parti.
Tour de France 2021. RTL chez vous.
Christophe Pacaud.
Le géant de Provence, le géant du cyclisme avec nous, Laurent Chalabert, bonjour.
Bonjour.
Il est là, on roule, ça y est, on est parti. On roule vers ce Mont Chauve qui va nous animer toute l'après-midi. C'est vrai que les coureurs le craignent, qu'ils soient professionnels ou amateurs, parce qu'il y a plein de drames qui se sont noués autour de ce Mont Ventoux.
Des drames et de belles images aussi, avec des exploits retentissants. Mais à chaque fois qu'on doit passer par le Ventoux, on a un peu la boule au ventre, parce qu'on le voit de loin, parce qu'on ne sait pas trop si ça va bien se passer ou pas. Et puis parce qu'on a mémoire aussi, c'est vrai, ces images, Simpson notamment, qui titube, et d'autres, hein, qui, sous la chaleur, ont vécu des journées galères. C'est ce vent qui, parfois, n'a pas permis à la course d'aller jusqu'au bout, parce qu'en haut, c'était tout simplement apocalyptique. Donc oui, le Ventoux, il réserve beaucoup de surprises, et forcément, on est plein d'humilité quand on doit aborder une étape où il faut passer par le Ventoux.
Tom Simpson, qui est décédé sur les routes du Tour de France, dans le Mont Ventoux en 1967. Encore une fois, une grande course. Deux fois, deux passages au Mont Ventoux aujourd'hui, pour une très longue étape. On se retrouve ce soir pour décrypter tout ça ensemble, Laurent Jalabert, 18h30, 19h dans...
Le Club Jalabert. À tout à l'heure.
Christophe Pacaud,
RTL, chez vous.
La question du jour, que vous inspire ce Mont Chauve, ce géant, ce Mont Ventoux? Votre avis recueilli ce midi par Morad Jabari.
Pour moi, c'est mythique. C'est Eddy Merckx, c'est la mort de Tom Simpson en 67, c'est Poulidor au Cagna, c'est le Mont Chauve, la Lune.
Ça fait 45 ans que je le pratique. Chaque année, on essaye de le faire au moins une fois. Voilà, c'est un peu la jeunesse.
Christophe Pacaud,
RTL, chez vous.
L'expérience en plus. Christophe Bérard, spécialiste vélo du Parisien aujourd'hui en France. Bonjour à vous, Christophe.
Bonjour, Christophe.
Quand je dis expérience, c'est que vous avez grimpé ce Ventoux en bonne compagnie il n'y a pas longtemps.
Oui, alors soyons modestes, j'étais un peu dans la voiture, mais juste après le critérium du Dauphiné, j'avais rendez-vous avec un certain Thomas Veuclair et on a grimpé le Ventoux par le côté le plus difficile que vont emprunter les coureurs. Et Thomas Veuclair nous a expliqué exactement ce qu'étaient les pièges du Ventoux. Alors déjà, au moment où on passe après le Chalet Reynard, on quitte la terre pour aller dans un paysage lunaire, c'est beaucoup plus facile. La véritable difficulté du Ventoux, c'est dans la forêt, parce qu'on a fait tous les virages avec Thomas et c'est l'accumulation incroyable de ces pentes qui alternent entre du 11%, 7%, etc. Il n'y a pas un instant de répit, on ressent une sensation d'étouffement dans la forêt. Et la différence notable, l'écrémage, si vous m'autorisez le terme, il se fait dans la forêt. Et quand on arrive au Chalet Reynard, là d'un coup, le paysage de pierre, lunaire, etc., c'est un petit peu plus facile. Et ensuite, on a cette arrivée au sommet. Et après, attention, il reste la descente vertigineuse qui ressemble un peu à celle du Tourmalet sur Malocène, qui peut faire des dégâts. C'est pour ça que moi, j'aurais bien aimé, dans un monde idéal, voir un certain Julien Alaphilippe. Mais hier, à l'arrivée, il nous a dit « Oubliez-moi, c'est pas pour moi ». En même temps, Julien Alaphilippe, il peut cacher son jeu, mais là, j'ai senti une pointe de sincérité.
Merci Christophe Bérard, à demain.
À demain.
Tour de France 2021.
RTL, chez vous.
Christophe Pacaud.
RTL chez vous, avant d'attaquer le Ventoux, rencontre avec, mais oui, notre Laurent Gérard national, l'RTL bien sûr. Bonjour Laurent.
Bonjour Christophe.
C'est la fête annuelle, c'est le retour de Laurent Gérard sur le Tour de France.
Oh là là, que de souvenirs et que d'émotions et que de beaux moments avec vous d'ailleurs, hein, sur les routes du Tour.
Le petit restaurant qui va bien le midi.
Le petit restaurant qui va bien le midi, et puis voilà, cette ferveur... avec les gens encore au bord de la route, et puis c'est un peu la résurrection.
Oui, parce que l'an dernier, on était complètement frustré. Là, cette fois, on peut venir voir, même un peu de loin, les coureurs, mais on peut voir le spectacle gratuit.
Moi, j'avais eu la chance l'année dernière de faire l'étape dans le Jura, qui était une magnifique étape grâce à Christian Prudhomme. Et là, je suis très, très heureux parce que je vais faire l'étape...
avec le patron.
Oh là là, c'est chaque fois une joie de retrouver Christian, une joie, un privilège d'ailleurs, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui m'impressionne beaucoup. Il est proche de cette France qu'on aime aussi.
Dans cette voiture numéro 1, il y a quand même eu tous les plus grands, tous les grands hommes politiques. Tout le monde est passé par là. Hein.
Oui, mais ils ont désinfecté. Hein.
C'est bien vu. Bon Laurent, et les spectacles, ça sera encore un... Ouais, il faut encore un peu d'attente.
On n'a pas beaucoup de vision là-dessus. Non. On espère comme tout à chacun. Moi, je suis pas frustré, ça fait 30 ans que je fais ce métier. Ah, ouais. Donc, voilà, on croise les doigts.
Merci Laurent. Merci. Bonne route.
Merci.
RTL.
Vélo va, vélo vol.
Fenêtre sur tour.
La voix va, ou vélo va.
Avec Christian Laborde.
Fenêtre sur tour. Fenêtre grande ouverte sur l'histoire de ce rendez-vous si particulier dans l'histoire de la Grande Boucle. Christian Laborde.
Quittant Sorgues pour Malocène, le peloton traverse Saint-Saturnin-les-Aptes, village où l'on écrit des poèmes et où l'on fait du vin. Les poèmes sont ceux d'Albert Trouvé et le vin, c'est du Ventoux. Pour les coureurs, Ventoux n'est pas le vin divin de Saint-Saturnin, mais une montagne d'enfer. Ils l'escaladeront comme ils pourront, pas forcément sur leur vélo. On se souvient de Christopher Froome, dans le Ventoux, en 2016. Chris Froome, maillot jaune, attaque à trois bornes du sommet. Dans sa roue, Bock Mollema et Richie Porte. Le cortège des voitures tout à coup s'arrête. Les trois coureurs heurtent une moto de presse. Porte et Mollema repartent. Froome ne repart pas. Son vélo est brisé. Pas de mécano. Pas de vélo de rechange. Que faire ? Continuer. Il se dit qu'il doit continuer, même sans vélo. Il continue donc sans vélo, en courant. Il a fière allure, Froome, quand il court. Il est né dans un pays où l'on court, le Kenya. Le Kenya est le pays des marathoniens, de Patrick Makko, de Denis Kimeto. Et sur la route surchauffée du Ventoux, Froome, courant vers le sommet, est bel et bien un marathonien. Un marathonien qui sauve son maillot et gagne le Tour.
Tour de France 2021.
RTL chez vous.
La course, toutes les demi-heures, avec Christian Olivier, Morad Djabari et Nicolas Georgerot sur la moto de Jérôme Cavert. Plus que jamais, vous êtes bien sur RTL, sur ces petits chemins du géant de Provence.
Ce petit chemin qui sent la noisette, oh, ce petit chemin n'a ni queue ni tête.
RTL Midi.
Bon, Peggy Broche, franchement, la météo de ce début juillet est bien, bien maussade.
C'est vrai, Vincent, oui, on n'a pas l'impression d'être en été. Et pourtant, alors cet après-midi, encore un temps nuageux, ponctué d'averses, localement orageuses, essentiellement entre les Pyrénées en remontant vers le centre et le nord. Les orages seront plus marqués dans le sud-ouest. Autre zone orageuse entre le Jura et les Alpes. Et une troisième zone sur la Bretagne avec pas mal d'averses et quelques coups de tonnerre possibles. Tout ça laisse peu de place, évidemment, vous l'avez compris, aux éclaircies. Mais il y en a tout de même quelques zones épargnées avec un ciel entre nuages et éclaircies et un très très faible risque d'averse. Entre le littoral aquitain remontant vers la Normandie et l'extrême nord, sur le nord-est, entre l'Alsace-Lorraine et la Bourgogne, et puis entre la vallée du Rhône et le pourtour méditerranéen. C'est très beau en Corse, tout ça sous des températures, alors qu'ils sont chauds d'un près de la Méditerranée, 33 à Ajaccio, 30 à Marseille, 28 à Perpignan, 26 à Lyon, 25 à Mulhouse, ça remonte un peu sur le nord-est, 24 à Nevers, 23 à Paris, Reims comme à Toulouse, c'est frais, 20 à Nantes et 17 à Brest.
Eh ben, on va s'en contenter. Merci Peggy. RTL. Il est 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Bonjour à tous, rebonjour. Des peines de 4 à 6 mois de prison avec sursis prononcé dans l'affaire de cyberharcèlement de Mila. On a gagné, on gagnera encore. Nous sommes déjà avec Sabine qui est avocate. Sabine, est-ce que ces peines vous paraissent suffisantes ?
Alors elles sont justifiées, mais elles sont largement insuffisantes pour moi et non dissuasives.
On en parle dans une seconde, le rappel des titres avec Vincent.
Oui, ben tout de suite, la route du Tour, évidemment. Ceux qui, chaque année, attendent le Mont Ventoux, eh ben, vont avoir double ration. Aujourd'hui, étape historique. Les coureurs ont rendez-vous deux fois avec le géant de Provence. 11e étape, le départ a été donné il y a une heure, Nicolas Georgerot.
Oui, un petit peu plus de 37 km parcourus. C'est un champion du monde, c'est un Français qui est en tête. C'est Julien Alaphilippe qui compte 15 secondes d'avance sur un peloton qui roule très très vite. Alaphilippe qui a négocié la première des 5 ascensions du jour en tête, la côte de Fontaine de Vaucluse. A noter un abandon spectaculaire, celui de Tony Martin qui est tombé dans un fossé, arcade sourcilière ouverte. Il a dû donc quitter la course il y a quelques kilomètres. Dans maintenant 3 km, le sprint intermédiaire et ensuite la côte de Gordes, la deuxième ascension de la journée. À tout à l'heure,
13h30, puisque le Tour c'est toutes les demi-heures sur RTL. Vous en parliez, Pascal, à l'instant avec votre auditrice qui va revenir. Le jugement qui va faire date, il est du jour, c'est celui de l'affaire Mila. 13 personnes jugées pour le cyberharcèlement de cette jeune fille qui, on s'en souvient, avait publié une vidéo polémique sur l'islam. 11 des 13 prévenus écopent de 4 à 6 mois de prison avec sursis, mais aussi des amendes. Ils devront verser 1 500 € à Mila chacun et 1 000 € pour les frais d'avocat. Au procès de l'affaire Trouadec, verdict attendu ce soir. L'heure est aux plaidoiries de la défense. Si ne vous êtes pas fait vacciner contre la Covid, vous pouvez vous attendre à un coup de fil de votre médecin traitant prochainement, puisque la CNIL a donné son feu vert. L'assurance maladie va pouvoir transmettre aux médecins les noms de leurs patients non vaccinés. Je rappelle aussi l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse, tué chez lui la nuit dernière par des hommes armés. Et puis le sport, le dernier champion de France, le LOSC, a un nouvel entraîneur. Il s'agit de Jocelyn Gourvennec. Pour le foot, c'est l'Euro aussi. Deuxième demi-finale ce soir, Angleterre-Danemark, 21h. Le vainqueur affrontera l'Italie en finale. C'est à vous, Pascal.
Merci Vincent, on parlera notamment dans cette émission.